France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une invitation lancée à la Russie.
À participer aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement le 6 juin en Normandie. La Russie est invitée, mais pas le président Poutine, précise la mission chargée de l'organisation, alors qu'Emmanuel Macron était cet après-midi dans le Vercors pour saluer la mémoire des maquisards.
Les autres titres, Kevin.
Nous serons au Liban alors que le Hezbollah, allié de l'Iran, a revendiqué une nouvelle attaque de drones sur le nord d'Israël, qui a répliqué dans la foulée. Merci la pluie, la situation des nappes phréatiques s'est nettement améliorée en mars en France, sauf dans le Languedoc-Roussillon.
Et on en parlera avec l'hydrologue du BRGM, Violaine Beau, qui sera l'invitée de ce journal.
Et puis on ira à Barcelone pour le grand défi du PSG ce soir en Ligue des Champions de football.
Dans le 18-20, la plus grave crise humanitaire du monde et la plus oubliée aussi, c'est en ce moment au Soudan. Pays pris depuis un an dans une guerre civile particulièrement destructrice, 2 milliards d'euros ont été débloqués hier lors d'une conférence à Paris pour une aide d'urgence. Un Soudanais sur deux est en proie à la famine. On embarque une nouvelle fois dans le reportage d'un jour dans le monde vers la Polynésie à bord du Plastique Odyssée, ce bateau qui ramasse et recycle les déchets plastiques en mer. Kevin, dans Sous les radars, nous expliquera comment on en vient à se bagarrer, on en vient aux mains en plein Parlement en Géorgie. Ambiance plus cosy dans les institutions européennes avec Caroline au pays des 27 du côté de chez la médiatrice. Et puis en deuxième heure, le téléphone sonne, la séquence mémorielle donc des 80 ans de la libération de la France a été lancée par Emmanuel Macron. Mais comment transmettre la mémoire au-delà des commémorations? Vous êtes parents, grands-parents, professeurs. Comment sensibilisez-vous les plus jeunes? Vos témoignages sont les bienvenus. 01 45 24 7000.
France Inter.
Voilà donc une nouvelle étape dans son itinérance mémorielle, selon le mot de l'Élysée.
Emmanuel Macron en plein cœur du Vercors, aujourd'hui à Vassieux, petit village du maquis, qui a vu se réunir jusqu'à 4000 hommes durant la Seconde Guerre mondiale. Maquis attaqué il y a 80 ans, jour pour jour, par la milice française. La date du souvenir dans la région étant plutôt d'ordinaire le 21 juillet, l'assaut nazi qui a fait des victimes civiles. Cette année, les commémorations de ce 80e anniversaire sont en parallèle de la campagne pour les élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Et bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour France Inter, Simon, pour une cérémonie solennelle, peut-être un peu politique aussi.
Et sur la place du village, le pupitre est installé devant le martyrologe, ce monument où sont gravés les noms des 73 civils tués ici par l'occupant.
Blanc Firmin, blanc Joséphine, blanc Suzanne, blanc André.
La famille Blanc, Blanc décimée, Arlette, tout comme les Barnary, les Revol ou les Bontou. Mais ce n'est pas l'assaut de l'armée allemande le 21 juillet qu'Emmanuel Macron est venu commémorer. C'est bien la répression lancée le 16 avril par la milice française.
Français prêts à tuer d'autres Français. Et avec eux, cette certaine idée de la France. Français rongés par l'esprit de défaite, inséparable de la haine de la République.
L'esprit de défaite, qu'il appelle parfois déclinisme, la haine de la République, la France fracturée, toute référence à l'époque actuelle est bien sûr purement fortuite.
Ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas. C'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France. Cela n'aimait pas la France des Lumières. Ils n'aimaient pas Voltaire, Rousseau, Hugo et Zola. Il n'aimait pas De Gaulle. Il n'aimait pas la France.
Il regarde l'histoire en face et en bloc, assure ses conseillers à l'Élysée. On jurerait que c'est aussi du présent que veut parler le président.
Le reportage de Simon Le Baron, envoyé spécial de France Inter à Vassieux en Vercors. Des déplacements dans le cadre de ces commémorations. Il y en aura encore beaucoup pour Emmanuel Macron. Le prochain, ce sera le 8 mai à Marseille. Et le moment le plus fort, bien sûr, ce sera le 6 juin, la cérémonie du 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, en présence notamment du président américain Joe Biden. Et ce soir, on apprend que la Russie est bel et bien invitée à y participer. La question se posait en raison, évidemment, de la guerre en Ukraine. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Mais les mots sont importants. Marie, c'est la Russie qui est invitée, pas Vladimir Poutine.
Oui, le président Poutine ne recevra pas de carton d'invitation et ne sera pas présent sur les plages de Normandie début juin. Il n'est pas convié compte tenu des circonstances et de l'invasion en Ukraine, annonce ce soir la mission Libération chargée d'organiser la commémoration. En revanche, la Russie est invitée à être représentée pour que, je cite, « l'importance des sacrifices des peuples soviétiques ainsi que la contribution russe à la victoire de 1945 soit honorée ». L'URSS n'a pas directement participé au débarquement, mais 27 millions de soviétiques sont morts dans la guerre contre l'Allemagne nazie. Alors qui pourrait être invité dans cette délégation russe, si toutefois Moscou accepte ? À quel échelon diplomatique ? C'est trop tôt pour le dire, assurent les organisateurs. Vladimir Poutine, lui, avait été convié en Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement en 2014. Malgré l'annexion de la Crimée 3 mois plus tôt, on peut avoir des différends, disait à l'époque François Hollande. Mais moi, je n'oublie pas que le peuple russe a donné des millions de vies. Le chef du Kremlin n'avait plus été invité 5 ans plus tard à l'anniversaire du D-Day, alors que la situation s'enlisait déjà dans l'est de l'Ukraine.
Merci Marie Mollet du service politique de France Inter.
Vladimir Poutine qui appelle ce soir l'Iran à la retenue.
Une escalade dans le conflit avec Israël aurait des conséquences catastrophiques. Voilà ce qu'a dit le président russe à son homologue iranien, Ebrahim Raisi. D'après un communiqué publié par le Kremlin ce soir, discussion après l'attaque lancée par Téhéran sur Israël ce week-end. Et alors que ce matin, le Hezbollah libanais, groupe armé fidèle à l'Iran, a revendiqué une nouvelle attaque de drones, des drones qui ont explosé dans le nord d'Israël. Bonsoir Noé Pignède.
Bonsoir Kevin, bonsoir à tous.
En direct de Beyrouth, Noé, c'est un nouvel épisode de tension. 3 Israéliens ont été blessés.
Oui, le Hezbollah confirme avoir envoyé plusieurs drones chargés d'explosifs contre des plateformes du Dôme de Fer. C'est le système de défense antiaérienne de l'État hébreu. Et cette attaque a immédiatement entraîné une riposte. Au moins 3 Libanais, dont un officier du Hezbollah, ont été tués dans des frappes aériennes sur leur voiture. Ces affrontements n'ont rien de nouveau. Depuis le mois d'octobre, les frappes israéliennes se multiplient sur le sud du Liban. Plusieurs villages ont été partiellement détruits. Au moins 270 combattants et 70 civils sont morts. Côté israélien, le nord de l'État hébreu est aussi la cible quotidienne de tirs du Hezbollah, mais les pertes sont beaucoup moins lourdes. 18 personnes ont été tuées en 6 mois. En fait, ce qui change aujourd'hui, c'est le contexte. Israël promet une riposte à l'attaque iranienne de ce week-end. Riposte qui pourrait très bien être dirigée en partie vers le Hezbollah, allié de l'Iran. Alors, en lançant des drones sur le nord d'Israël, la milice libanaise envoie un signal clair à son ennemi. Elle lui rappelle que le dôme de fer n'est pas impénétrable et que toute attaque entraînera mécaniquement une riposte.
Allez, décision de Noé Pignède en direct de Beyrouth, correspondant de France Inter au Liban. Des flammes qui ravagent un édifice historique. Une flèche haute de 54 mètres qui s'écroule. Les images de l'incendie de l'ancienne bourse de Copenhague aujourd'hui rappellent furieusement celle de Notre-Dame de Paris. Le feu qui s'est déclaré tôt ce matin est désormais sous contrôle, d'après les pompiers de la capitale danoise. Mais une grande partie de ce bâtiment du XVIIe siècle a été endommagée. Il n'y a pas de victimes.
Et en France, les pompiers sont particulièrement en alerte dans les Pyrénées-Orientales.
Comme en plein été, le risque incendie est au niveau 4 sur 5 en raison d'une part de la tramontane qui va balayer le département jusqu'à vendredi avec des rafales jusqu'à 130 km/h et puis la sécheresse qui dure depuis 2 ans et qui rend la végétation très vulnérable, d'où l'appel à la prudence du commandant Denis Pagès du service départemental d'incendie et de secours.
On compte sur le citoyen pour faire preuve de responsabilité. 9 feux sur 10 sont des feux causés par l'homme, qu'ils soient de manière volontaire ou involontaire. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que, il y a un arrêté préfectoral. Jusqu'au 1er mai, ce règlement permet de réaliser des écobuages pour brûler des végétaux en dehors des zones forestières. La première condition, c'est de faire en sorte de déclarer l'écobuage en mairie, d'avoir un téléphone à proximité, de quoi intervenir avec de l'eau au cas où le feu se développerait, de brûler des petits tas, et puis bien entendu de ne pas brûler dès qu'il y a du vent. L'arrêté préfectoral prévoit 40 km/h, mais cette année, avec le niveau de sécheresse, il vaut mieux faire en sorte de ne pas brûler dès qu'il y a du vent. Alors cette semaine, c'est hors de question, tout l'État à brûler devront attendre.
Denis Pagès des pompiers des Pyrénées-Orientales au micro de Suzanne Chodjaï, France Bleu Roussillon. Le Languedoc-Roussillon, c'est toujours le point noir sur la carte des nappes phréatiques, quand plus largement en France, la situation s'améliore. D'après le BRGM, en mars, il a beaucoup plu et un quart des nappes avait un niveau sous les normales contre 36% en février.
Bonsoir Violaine Beau.
Bonsoir.
Vous êtes hydrogéologue au BRGM, le bureau de recherche géologique et minière. On le disait à l'instant, les nappes phréatiques sont bien rechargées. Si l'on en croit votre dernier bilan, on va y venir en détail, mais il reste effectivement un point noir, le Roussillon avec les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Et on est là carrément sur des records.
Alors oui, effectivement, sur les Pyrénées-Orientales, ça fait 2 ans qu'il ne pleut pas. 2 ans que certaines nappes sont en baisse constante. Donc là, on atteint vraiment des minimums historiques, sachant que la plupart des points sont suivis depuis les années 90.
Mmh. Alors, hormis cette région, le mois de mars si pluvieux aura quand même été une bonne nouvelle. 58% de vos observations sont au-dessus des normales. Pouvez-vous nous faire un tour de France, Violaine Beau?
Alors oui, effectivement, la période de recharge a commencé à partir de mi-octobre, notamment sur les 2 tiers nord. On a vu des hausses de niveau assez rapides sur la plupart des nappes. Et grâce à cette recharge excédentaire, on a vraiment aujourd'hui des nappes qui se sont bien rechargées et qui affichent des niveaux très largement au-dessus des normales. Et puis aussi, grâce aux pluies de février-mars, on a enfin le sud-est, la Provence et la Côte d'Azur, qui ont vu aussi leur recharge vraiment bien débuter, et donc des niveaux qui ont bien monté.
Donc oui, allez-y.
Donc il y a des disparités, puisqu'on a des nappes qui sont un petit peu différentes. Notamment, on a des nappes qui sont inertielles, avec des écoulements qui sont labyrinthiques pour atteindre ces nappes à travers la partie du sol qui est sèche, la zone non saturée.
Oui.
Et donc, ces nappes ont mis beaucoup plus de temps à réagir.
Oui, alors j'aimerais bien vous nous expliquer la différence, Violaine Beau, entre ces nappes inertielles, comme vous dites, et les nappes réactives. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les fortes pluies de mars n'ont pas forcément un effet immédiat sur les nappes.
Oui, tout à fait. Si on est par exemple sur le bassin parisien, on a des nappes qui peuvent mettre jusqu'à 2 mois, voire 2 mois et demi pour réagir à une pluie. Et il faut plusieurs hivers excédentaires pour que les niveaux retrouvent des niveaux hauts et que les ressources se renouvellent. Mmh. Alors qu'on a d'autres nappes, par exemple en Provence, les calcaires karstiques, là où vous avez des grottes où on peut faire de la spéléologie, par exemple, là, les écoulements sont très rapides dans ces boyaux, dans ces fractures. Et donc, les niveaux peuvent passer, comme on a vu sur la Provence le mois dernier, de très bas à au-dessus des normales en un mois.
Et que dire des nappes dans les régions, dans les départements où il y a eu des inondations ces dernières semaines? Je pense à la Bourgogne ou encore à la Charente.
Alors, sur ces secteurs, effectivement, les niveaux sont hauts sur les nappes. Donc c'est essentiellement des crues de cours d'eau qu'on a observées, mais avoir des niveaux hauts sur les nappes, ça favorise aussi le ruissellement, parce qu'il y a un refus d'infiltration de l'eau, et donc ça peut contribuer à faire durer ces crues de cours d'eau.
Et les nappes, elles se rechargent jusqu'à quand?
Alors ça se recharge jusqu'à ce que la végétation reprenne ses droits, donc ça va pas tarder à s'arrêter. Ensuite, pendant le printemps et l'été, c'est un petit peu plus compliqué d'observer des recharges des nappes, puisque l'eau, elle est presque entièrement reprise par la végétation. Mais parfois, quand on a des gros épisodes de pluie, on peut voir une petite recharge de nappes.
Quelles sont vos prévisions pour cet été? On peut rêver d'un été sans restrictions ou presque?
Alors, on est assez optimiste, effectivement. Mais cependant, les nappes qui sont réactives, là où les écoulements sont rapides, peuvent se vidanger en quelques semaines. Donc si on a en printemps et en été très sec, on peut voir des restrictions qui apparaissent à partir de juillet et plus probablement en août. Donc on reste quand même prudent sur ces nappes qui sont assez réactives.
On reste vigilant. Merci Violaine Beau pour ce point hydrologique.
L'actualité ce soir, c'est aussi le gouvernement qui trouve une nouvelle source d'économie pour réduire le déficit. Le reste à charge pour les patients, après une consultation chez le médecin généraliste, va passer de 1 à 2 euros à partir du 15 mai. Pour ce qui est du transport sanitaire, ça double aussi, passant de 2 à 4 euros. Le gouvernement espère faire ainsi 800 millions d'économies grâce à ces mesures. La rémunération du directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, pour 2023, validée par 2/3 des actionnaires réunis en Assemblée Générale aujourd'hui, jusqu'à 36,5 millions d'euros en fonction des résultats finaux de l'entreprise l'an dernier. Le vote était symbolique, mais scruté au vu de la polémique sur ce chiffre. Stellantis en grande forme et globalement l'économie mondiale devrait bien se porter en 2024. C'est en tout cas ce que dit le Fonds monétaire international dans ses nouvelles prévisions. Aujourd'hui, une croissance mondiale à 3,2%, c'est un tout petit peu mieux que prévu au début de l'année. Et ces chiffres, on les regarde d'un peu plus près avec vous, Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir.
Le FMI tempère tout de même son optimisme concernant la zone euro et notamment la France.
Effectivement, on s'éloigne de plus en plus du scénario d'une croissance de 1% de l'économie française cette année, selon le Fonds monétaire international. Ça devrait plutôt être 0,7%. L'institution revoit à la baisse pour la deuxième fois consécutive ses prévisions pour notre pays. Moins de croissance, cela veut aussi dire moins de rentrées fiscales et moins de cotisations sociales qui rentrent dans les caisses. Le signal n'est sans doute pas de très bon augure, alors qu'on attend dans les prochaines semaines le verdict des agences de notation sur la dette française. Chez nos voisins allemands, le FMI revoit là aussi à la baisse ses prévisions de croissance à un niveau encore inférieur au nôtre, plus 0,2% en 2024. C'est un motif d'inquiétude pour l'ensemble de la zone euro qui voit ses deux locomotives économiques tourner au ralenti.
Et aux États-Unis, en revanche, Fabien, l'économie marche fort, peut-être même un peu trop fort.
Oui, l'économie américaine surclasse largement tous les autres pays du G7. Elle semble presque en surchauffe avec un taux de croissance économique attendu à 2,7% cette année et surtout une inflation qui ne faiblit pas. De quoi douter de plus en plus de l'imminence d'une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Or, en matière de taux d'intérêt, ce sont souvent les États-Unis qui donnent le là. Les baisses de taux attendues en Europe pourraient donc aussi, par voie de conséquence, traîner un peu plus que prévu, ce qui n'encouragerait pas une remontée rapide des taux de croissance.
Explication signée Fabien Cazot, chef du service économie et sociale de France Inter. Là, ce sont les caisses d'une collectivité qui se remplissent. Le tribunal judiciaire de La Rochelle condamne Airbnb à verser une amende de près d'1,5 million d'euros à la communauté de communes de l'île d'Oléron. Ça concerne le non-versement de la taxe de séjour de la part de la plateforme de location.
Et puis en football, un objectif ce soir pour le PSG, conjurer le sort.
Eh oui, jamais une équipe française ne s'est qualifiée pour le tour suivant en Ligue des Champions en ayant été battue au match aller et Paris a perdu 3-2 la première manche de son quart de finale face au FC Barcelone la semaine dernière. Mais lors d'un Barça-PSG, tout est possible. Et bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Kevin, bonsoir à tous.
Vous êtes à Barcelone en direct du Camp Nou, tout est possible, d'autant plus que la dernière fois que les Parisiens ont joué là-bas, ils l'ont emporté 4-1 avec un triplé d'un certain Kylian Mbappé.
Effectivement, alors ça sera pas au Camp Nou Kevin, ça sera au Stade Olympique parce que le Camp Nou, lui, est en reconstruction et donc c'est un peu inédit, le Barça joue cette saison au Stade Olympique de Montjuïc où il y a énormément d'ambiance, vous l'entendez derrière moi, des Barcelonais qui chantent. L'histoire évidemment retient surtout la remontada en 2017, cette humiliation qui colle à la peau du PSG, mais oui, Paris depuis s'est vengé grâce surtout à Kylian Mbappé, l'homme des grands rendez-vous, enfin pas toujours parce qu'il traverse une période compliquée, Kylian Mbappé. Un but en 6 matchs seulement et surtout ce match aller la semaine dernière où il n'a pas pesé rien, même pas un tir cadré. Ne pas être décisif en Ligue des Champions à la maison, ça ne lui était pas arrivé depuis 3 ans. C'est dire si ce soir c'est lui, Kylian Mbappé, qui a les clés de la rencontre pour ce qui sera peut-être son dernier grand match avec le PSG. C'est à lui de prendre les commandes et d'inverser la tendance, ce que Paris n'a jamais fait. Vous l'avez dit, quand il a perdu le match à la domicile, Paris n'a jamais réussi à se qualifier au retour. Voilà le défi qu'attend le PSG, jouer un pied de nez à l'histoire et aux statistiques. Mais son entraîneur, Luis Enrique, l'a dit hier, nous allons le faire. C'est lui qui était sur le banc du Barça en 2017. C'est lui l'artisan de la remontada.
Xavier Monferrand en direct du Stade Olympique donc de Barcelone. Coup d'envoi à 21h, 2 buts d'écart. C'est aussi ce qu'il faudra au Borussia Dortmund pour se qualifier. Les Allemands battus 2-1 à l'aller reçoivent l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Et puis en tennis, retour en fanfare sur les courts pour Rafael Nadal. L'Espagnol n'a pas joué un match officiel depuis plus de 3 mois, mais il a parfaitement commencé son premier tour au tournoi de Barcelone, puisqu'il a remporté son premier set 6-2 face à l'Italien Flavio Cobolli et qu'il mène 5-2 dans le deuxième set. Il n'est donc pas loin de se qualifier pour le deuxième tour.
Ça, c'est du direct. Hein. Merci Kevin. Et n'oubliez pas de revenir tout à l'heure pour sous les radars. La météo à suivre tout en fraîcheur.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Encore des averses pour demain, c'est bon pour nos nappes phréatiques.
Effectivement, la situation va assez peu évoluer par rapport à aujourd'hui. La journée de demain sera comparable. Des averses circuleront dès le matin au nord de la Seine jusqu'en Alsace et au Jura et des Pyrénées au Massif central et aux Alpes du Nord. Elles deviendront plus actives l'après-midi, allant jusqu'à l'orage et s'accompagnant parfois de grésils. Ces averses seront aussi neigeuses des 700-900 mètres d'altitude en général, plutôt vers 1300-1500 mètres sur les Pyrénées. Sur les régions de l'Ouest et la Corse, l'instabilité sera moins marquée. Les éclaircies seront assez belles dans l'ensemble. Les averses seront aussi plus isolées et apparaîtront essentiellement l'après-midi. Et puis on trouvera quand même plus de soleil entre le Roussillon et la Provence. Le vent va avoir tendance à baisser d'un cran par rapport à aujourd'hui. Les rafales soufflant quand même entre 60 et 70 km par heure.
Et puis il y aura encore quelques degrés de moins.
Oui, la séquence fraîche se poursuit et s'accentue avec une nouvelle baisse des températures qui concernera les minimales et les maximales. Au lever du jour, il fera 3 à 8 degrés en général, avec 7 à 12 degrés autour de la Méditerranée. Et pour demain après-midi, prévoyez seulement 9 degrés à Mulhouse, 10 degrés à Lille, 11 degrés à Lyon, Dijon et Au Havre, 12 degrés pour Paris, Brest et Bourges, 14 degrés à Limoges, 15 degrés à Nantes. On attend 16 degrés à Bordeaux, Toulouse et à Marseille, 19 degrés à Montpellier et à Nice, et quand même 20 degrés pour Bastia.
Quand même, Sébastien Léas, vous reviendrez après le journal de 19h.